6h46 sur France Culture. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Mignier.
Vous posez la question de la situation de l'Italie face aux réfugiés dans l'angle mort du cynisme européen en compagnie de Catherine Vittold de Vinden, que j'ai plaisir à saluer.
Bonjour.
Bonjour madame.
Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Oui, en fait, on va parler des migrations internationales pour cette journée spéciale sur France Culture, avec en fait ces négociations qui ont commencé hier à l'ONU, non pas au sujet de l'Italie, mais au sujet d'un pacte mondial sur les migrations qui doit être ratifié avant la fin de l'année. Alors bonjour Catherine Vittold de Vinden, et merci d'être venue ici, politologue, directrice de recherche au CNRS et série Sciences Po, auteur de La question migratoire au XXIe siècle, migrants, réfugiés et relations internationales aux presses de Sciences Po. Alors certains parle déjà pour cet accord d'un accord de Paris bis, puisque c'est un texte non contraignant qui devrait, je cite, accroître la coopération sur les migrations internationales dans toutes leurs dimensions. Il y aura 6 tours de négociations jusqu'à la signature prévue en décembre au Maroc. Ce serait donc une évolution majeure, au moins sur deux plans, politique d'abord, puisqu'il s'agit d'éviter les frictions ou les marchandages qu'on voit depuis quelques années entre les États pris dans des flux internationaux en augmentation, 260 millions de personnes en 2010. Plus à prévoir à cause du réchauffement climatique, et puis évolution historique, puisque c'est la volonté, vous le soulignez dans votre livre, de faire émerger un droit des migrants inédit et encore en germe dans les textes, un défi, comme vous le dites, pour le système westphalien. Les traités, c'était il y a 370 ans. Alors, comme pour le climat, le chemin est long, alors que les pays durcissent leurs conditions, pas seulement aux États-Unis ou en Europe. Les États-Unis se sont retirés de cet accord, la Hongrie a hésité, cette négociation est un test et une opportunité. Sur le climat, la France était en tête cette fois. Qui osera prendre le leadership dans le contexte politique difficile que l'on sait? On pourrait peut-être rappeler juste le cadre légal, Catherine Vittold de Vinden. La première étape de ce traité a eu lieu à l'ONU en 2016, mais il existe déjà 2 conventions qui régissent le statut des migrants et leur traitement.
Tout à fait. Alors d'une part, il y a la Convention sur les réfugiés, la Convention de Genève de 1951, qui a une portée internationale et universelle, puisque en 1967, la plupart des États ont élargi au monde entier la possibilité de donner le statut de réfugié. L'autre convention, c'est la Convention des Nations Unies de 1990 sur les droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles. En revanche, cette convention n'a été signée que par 51 États, donc tous du Sud, ce qui fait qu'il y a encore beaucoup à faire pour qu'on ait un statut universel du migrant.
Et il a fallu 10 ans pour la faire ratifier. Absolument. Effectivement. Alors, en quoi ces deux conventions sont insuffisantes ou inadéquates, justement, du point de vue du droit, si on reste là-dessus?
Alors, d'une part, déjà pour ce qui est du droit d'asile, il y a une 50aine d'États qui ne sont pas signataires de la Convention de Genève, et notamment dans la région du Proche et du Moyen-Orient, en dehors de la Turquie, qui a signé la Convention de Genève, mais avec une réserve géographique qu'elle a conservée pour les Européens, ce qui aujourd'hui n'a plus beaucoup de sens, c'était la guerre froide à l'époque, les autres pays ne sont pas signataires de la Convention de Genève. Donc là où il se produit le plus de réfugiés dans le monde, les États ne sont pas signataires du droit d'asile, ce qui montre les lacunes de la situation en la matière. Et pour les migrants, donc, c'est un sujet tellement sensible qu'il a eu très peu de reconnaissance dans les grandes réunions internationales. On a commencé timidement à en parler au G20. Il y a 2 ans, et puis on a eu ce pacte en 2016, il a fallu la crise de l'accueil des migrants en Europe pour que enfin sur la table des Nations Unies on mette à l'agenda la question migratoire, ce qui a débouché donc sur la résolution pour la réunion de rentrée des Nations Unies en septembre 2016 d'adopter un pacte pour les migrants d'un côté, pour les réfugiés de l'autre, et c'est ce qui va faire l'objet des négociations pour la ratification de la fin de cette année.
Exactement. Donc ces négociations, là pour le coup, avec les 193 pays membres des Nations Unies, qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette multiplication des accords bilatéraux qu'on a vu justement ces dernières années, notamment au sujet de la Méditerranée, accord UE-Turquie, accord UE-pays subsahariens, etc., etc.
Alors les accords avec la Turquie, c'est des accords multilatéraux, puisque c'est l'Union européenne avec la Turquie. Mais effectivement, dans la plupart des cas, on a des accords bilatéraux. bilatéraux. Donc là, c'est une sorte de sortie pour les États du carcan européen, ce qui leur permet beaucoup de liberté, où ils peuvent négocier un peu ce qu'ils veulent avec les pays avec lesquels ils se mettent d'accord. Souvent, ce qui est négocié, c'est éventuellement des aides au développement, des financements divers pour telle ou telle action, en échange de l'acceptation pour ces pays de reprendre les sans-papiers qui sont reconductibles à la frontière selon les pays européens. Donc on a une multitude de ces accords bilatéraux. Et chaque pays bricole en fonction de sa diplomatie avec tel ou tel pays de départ, en fonction de ce qu'il considère comme quelque chose qui va arrêter les flux migratoires pour dissuader, ce qui n'a pas eu beaucoup de résultats, les termes de ces accords bilatéraux.
Donc pour le dire autrement, ça vous semble moins, disons, un creuset expérimental que plutôt une somme d'erreurs ou d'apories, faudrait le dire comme ça ?
Oui, un peu, parce qu'on a toujours dit que finalement, ce qui était en contrepartie de ces accords bilatéraux, c'était soit on paye les pays, ce qui a été le cas par exemple avec la Libye à de nombreuses reprises, soit on mène des actions de développement mais qui n'ont pas eu beaucoup d'impact sur, la dissuasion de partir. Qui parfois même accélère le départ, puisque le développement accélère aussi la migration. Ça introduit des liens, etc. Et ça permet à des gens qui sont mieux informés de pouvoir partir. Et d'autre part, très souvent, ce sont des mesures de courte durée qui n'ont aucun impact migratoire sur le moyen terme.
Alors, si on revient, disons, aux négociations qui vont avoir lieu là pour ce pacte mondial sur les migrations, une chose que vous soulignez depuis pas mal de temps, c'est qu'on commence à avoir une vision d'abord, universitaire des migrants, et une vision aussi positive économiquement, notamment depuis une étude du PNUD de 2009, et de plus en plus.
La plupart des chercheurs, et notamment des économistes, y compris les organisations internationales comme l'OCDE, soulignent que la migration est un bienfait économique, qu'elle rapporte en termes de produit intérieur brut, parce que les migrants sont dans des classes d'âge qui correspondent souvent à l'âge actif. En moyenne, ils ont entre 20 et 64 ans, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble de la population. Donc, il n'y a pas le coût de l'éducation des personnes. Il n'y a pas toujours le coût du très grand âge, parce que certains sont repartis chez eux. D'autre part, l'essentiel des migrants à l'échelle mondiale, ce qui n'est pas le cas de l'Europe, mais à l'échelle mondiale, sont des travailleurs. Donc, ce sont des gens qui entrent sur le marché du travail. Pour l'essentiel, donc, ce sont des gens qui envoient de l'argent chez eux. 460 milliards de dollars sont envoyés annuellement par les migrants dans leur pays d'origine. Donc, c'est une sorte de spirale gagnant-gagnant-gagnant. Un migrant gagne 5 fois plus s'il est parti chez lui que s'il reste sans migrer. D'autre part, il envoie de l'argent chez lui et il rapporte au pays où il s'est mis à travailler, dans le pays d'accueil.
Avec un chiffre extraordinaire d'une augmentation, j'ai vu, du PIB d'1% pour 1% de population migrante. Absolument. Par rapport à la population totale. À confirmer donc, il y a encore beaucoup de débats à avoir sur cette équation compliquée, si j'ai bien compris, des cerveaux, puisque les pays développés préfèrent recevoir des populations qualifiées et que les pays moins développés ne veulent pas laisser partir leurs cerveaux. Si on se demande qui prendra le leadership, à votre avis, pour qui est-ce que ça pourrait être intéressant ? Est-ce que c'est pour un pays de l'Union européenne, alors qu'on est en pleine redéfinition du droit d'asile ? Est-ce que c'est pour l'Amérique latine, qui a tenu son sommet également sur les migrations, ou le Maroc, dont on sait qu'il essaye de prendre un leadership moral et international aussi ?
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour des pays du Sud qui sont signataires de la Convention de 1990 des Nations Unies sur les droits de tous les travailleurs migrants et leurs familles, ça peut être une stratégie de visibilité sur la scène internationale, de se donner ce rôle de leadership sur le droit à la mobilité, qui est un droit parmi les plus inégaux dans le monde, puisque ça dépend de votre passeport. Si vous êtes européen, américain, canadien, vous pouvez circuler librement pendant 3 mois dans 172, 173 pays selon votre passeport. Si vous êtes russe, en 91, si vous êtes soudanais, érythréen, vous représentez un risque migratoire total et donc vous pouvez très très peu circuler sans visa. Donc en fait, Je pense que ce sera un symbole fort si un pays du Sud latino-américain ou si le Maroc, qui essaye d'avoir un leadership là-dessus, prenait en main cette mise à l'agenda sur la scène internationale, notamment onusienne, de la question migratoire, qui a été une grande oubliée de la définition des objectifs mondiaux du développement, par exemple de 2000, et dont on parle de façon indirecte dans les objectifs du développement durable de 2015.
Et on a vu en tout cas un rapprochement entre Antonio Guterres et Michel Temer au Brésil à suivre. Merci en tout cas Catherine Vittel de Venden, politologue, auteur de la question migratoire au XXIe siècle, aux presses de Sciences Po. Informations et vidéos sur le site de France Culture. Et demain, on parle des pays baltes.